Je reçois notre invité, c'est toujours un plaisir de l'accueillir au téléphone, Pierre Louty, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour.
Vous êtes le responsable des éditions de la Vétizou, en Haute-Vienne, à Neuvic-Entier précisément, à l'occasion d'un ouvrage que vous consacrez à la sorcellerie, qui a pour titre « Dans les griffes de la sorcellerie ». Et vous faites appel à vos souvenirs d'enfance pour raconter un événement qui est à l'origine peut-être de ce livre autour de la sorcellerie.
Ben effectivement, j'avais déjà écrit deux ouvrages sur la sorcellerie dans les années 90, au siècle d'avant. Et maintenant que je suis presque à l'orée de ma vie, j'ai voulu témoigner d'un événement un peu tragique, on pourrait dire, qui a frappé ma famille dans les milieux du XXe siècle. Voilà. Alors, je ne voulais pas quitter ce monde sans parler de cela, parce que c'était quelque chose qui nous a beaucoup marqué et nous avons pu échapper, mais avec beaucoup de dégâts.
Alors, c'est un événement qui est lié à la sorcellerie ou est-ce que ça fait partie d'un secret de famille ?
Oh, ce n'est pas vraiment un secret de famille, c'est une histoire de jalousie. Dans les années 40, quoi, on vivait à la campagne, au bord de la Rozelle, près de Limoges. Et donc, de l'autre côté de la rivière, il y avait une lavandière qui avait mis dans sa tête, quoi, de faire marier son fils avec ma mère. Voilà. Mmh. Alors, ma mère était une jeune femme à l'époque, qui travaillait avec ses parents et son frère à la ferme. Et elle avait rencontré mon père, quoi, qui était aussi un agriculteur. Mais seulement la guerre est arrivée et ils n'ont pas pu se consacrer au mariage. Mon père a été mobilisé, voilà. Et donc ce n'est qu'après qu'ils ont pu à nouveau s'unir, quoi, et fonder un foyer, là, dont je suis issu, bien sûr. Mais cette lavandière avait été très contrariée. Et alors, à ma naissance, elle a déposé dans mon berceau un petit sac avec des mauvaises graines. Et je crois que c'est en raison de ces graines-là que j'ai perdu peu à peu l'usage des yeux et je suis devenu un écrivain aveugle, voilà. Et d'autre part, ma famille a été très marquée parce que j'ai perdu en quelques années, en 2 ou 3 ans, 2 grands-pères, ma grand-mère. Ma maman elle-même a été très malade et mon père a été un peu frappé, fracassé par la foudre. Mmh. Alors ça faisait beaucoup et pour nous sortir de là, nous avons dû quitter la ferme où nous étions, nous éloigner tout simplement, voilà, de ce mauvais sort qui avait été jeté sur ma famille. Alors, c'est ce que je livre au lecteur aujourd'hui.
Est-ce que ce sont les aléas de la vie ou vraiment un envoûtement de la part de cette lavandière ? Est-ce que vous avez cherché des réponses à un moment donné ?
Ah, on s'est éloigné. Alors, un peu après les années 50, là, tout s'est arrangé, quoi. Nous avons pu repartir à zéro et moi, j'ai fait des études, je suis devenu instituteur, j'étais plutôt cartésien, quoi. Je crois pas trop à cet imaginaire, quoi, à ce folklore, comme on dit en Limousin. Mais peu à peu, c'est revenu, peut-être, avec l'âge, je crois. J'ai constaté qu'il y a des personnes qui ont des dons, quoi, pour faire du bien, pour soulager des douleurs, pour arrêter le sang, pour ôter le venin des serpents, pour soigner le zona, par exemple. Donc tout ça, ça s'explique pas, quoi. On a beau être raisonnable, quoi. Il faut bien s'interroger, quoi. On se pose des questions. Voilà, c'est ce que j'ai voulu faire partager aux lecteurs dans ce livre illustré par ma jeune collaboratrice Liv Van Rijck qui a fait des photos et qui a fait la couverture.
Dans les griffes de la sorcellerie, un ouvrage donc avec effectivement de très belles photos, avec des lieux aussi que vous évoquez où il pourrait y avoir un peu de sorcellerie, voire franchement de la sorcellerie. Donc ces lieux existent vraiment en Limousin, puisque vous en avez recensé, et souvent ils sont liés à l'eau ou aux sources. Que faut-il y voir à ce moment-là? Est-ce que l'eau ou les pierres, parce qu'il y a aussi des rochers...
Le pouvoir de l'eau, c'est un pouvoir. D'abord, moi, je dis que l'eau est guérie, elle soulage, voilà. Et les gens, tout au long de leur existence, sont allés vers les sources. C'était d'abord les Celtes, disons, il y a de ça 2500 ans, qui se sont installés au confluent de nos rivières. Qui adorait les sources, qui les vénérait même. L'eau pure, bien sûr, l'eau cristalline, bienfaisante, qui soulage, qui apaise le feu, je crois que dans tous les pays du monde, et même particulièrement chez nous, en Limousin, quoi, les gens viennent vers les sources, vers les bonnes fontaines, à dévotion, et encore de nos jours, on peut constater qu'il y a des petits chiffons qui sont accrochés au buisson, les quelques pièces menues monnaies jetées au fond de la vasque. Alors, on peut s'interroger aussi. De toute façon, ces bonnes fontaines, elles sont toutes petites, elles sont minuscules, elles ne sont pas dangereuses. Mmh. Voilà.
Mais un jour, elles ont eu leur importance.
Ah oui, il y a eu des pèlerinages, il y a eu... l'Église catholique avait sanctifié les sources, ce qui n'était pas le cas au départ. Hein. Les hommes avaient sélectionné des sources comme ça, qui avaient des qualités bienfaisantes, plus que d'autres sans doute. Mais après, l'Église catholique y a mis des saints, Saint Eutrope, Saint Georges, Saint Nicolas, voilà... en prétendant que c'était le saint qui guérissait.
Il y a d'ailleurs des photos d'églises ou de ruines d'abbayes dans votre ouvrage, dans ces griffes de la
sorcellerie. D'accord, oui. Et même dans ma commune, à quelques kilomètres de chez moi, là, il y a un sanctuaire, le sanctuaire de Saint-Nicolas d'Exidiou, où il y a encore deux bonnes fontaines très fréquentées. Et donc il y a eu dans le passé, il y a 80 ans à peu près, des pèlerinages très importants au Mont Gargan aussi, la fontaine du Buisson Blanc. Il y avait tout un protocole, disons, pour obtenir des soulagements dans les difficultés de la vie, pour respirer, pour la coqueluche, pour la bronchite, les rhumatismes.
Et alors, on a parlé de l'eau, effectivement, avec vous, Pierre Louty, mais également les pierres, et en Dordogne, bien sûr, il y a le fameux chapelet du diable près de Saint-Estèphe, de l'étang de Saint-Estèphe, mais vous en recensez aussi dans votre Limousin, notamment avec le diable qui abandonna éventuellement ce fameux chantier près de Royères de Vassivière.
Ah oui, parce que il y a beaucoup de lieux qui ont été fréquentés par le diable, le malin, quoi. Surtout la nuit, quoi, pour effectuer des travaux un peu importants. Par exemple, la rigole du diable à Royères de Vassivière. Il y a aussi le pont du diable au nord de la Creuse. Disons que le diable peut jouer des tours aussi aux gens, au virage de l'enfer, à côté des Moutiers. Ou alors à Terre Rouge, tout près de chez moi, là, où des événements tragiques se sont produits à quelques décennies d'écart, mais qui ont été bien constatés, quoi, voilà. Alors, ce sont peut-être des légendes, des croyances, des superstitions, mais ça fait partie de l'âme limousine.
Est-ce que c'est l'être humain aussi qui se rattache éventuellement à un espoir, éventuellement, quand il rencontre des difficultés, en allant, par exemple, prier, faire une dévotion, jeter une pierre, une pièce, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, dans l'espérance, finalement, d'un mieux?
C'est-à-dire que quand tout va mal, on se raccroche un peu à ce que l'on peut trouver, quoi. Il y a des explications souvent irrationnelles. à ces difficultés, à ces maladies, à ces maux. Ça peut toucher le bétail, ça peut toucher les gens, ça peut... alors on cherche à sortir de cette impasse et effectivement d'aller vers une espérance en un monde meilleur, voilà. Ça fait partie, c'est un peu une religion, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui fait que finalement ces croyances, ces superstitions autour de la sorcellerie, du diable, des sorcières, et bien sûr dans la période d'Halloween, c'est propice aussi, qui fait que finalement ça existe et ça a perduré au fil des siècles, au fil des temps, puisque depuis l'époque celte, on a des traces de ces légendes, de ces sorcelleries.
Et oui, parce que l'homme a toujours cherché à connaître son avenir, à savoir pour deviner quoi, ce que serait de même. Aussi, il a toujours cherché à modifier le cours des choses, à écarter le mauvais sort, à avoir un avenir meilleur. Et même au XXe siècle, le président de la République de l'époque, François Mitterrand, faisait appel à ces mages, à ces magiciens qui pouvaient lui prévoir l'avenir. Voilà. Pourtant, c'est un homme, une forte personnalité, beaucoup de raisonnable, mais il y avait aussi ses croyances en lui qui remontaient peut-être à sa Charente natale. Je crois que de tous à l'époque romaine, les empereurs romains, dans le berceau, disons, de l'humanité, en Mésopotamie, la magie est apparue pour découvrir ce que serait demain, voilà. Et peut-être influer un peu sur le sort.
Sûrement.
Mais voilà ce que j'ai voulu inscrire dans ce livre. Et finalement, bon, en Limousin, j'ai toujours remarqué que Amalem, malin et demi. Vous voyez ma famille frappée par ce mauvais sort. Finalement, nous avons réussi à survivre, à échapper, quoi.
La preuve, c'est que vous êtes là aujourd'hui.
À poursuivre. Et finalement, vous voyez, mon grand-père qui avait placé sous mon berceau son vieux stylo de la guerre 14, en disant... en formulant un vœu que je sois un jour écrivain, eh bien, 80 ans après, il a eu le dessus, quoi, voilà. Et ça a été la revanche de mon grand-père, voilà. Donc, après tout, on peut bien croire un peu, et tout en étant forcément... très réfléchi, parce qu'il n'y a pas que cela dans la vie, quoi.
Heureusement, voilà. Heureusement. Oui. Et ces sorcières ont parfois eu des destins un peu compliqués, parce que c'était très très mal vu, hein, ces sorcières. C'était un peu le retour de bâton, finalement.
C'est-à-dire que leur fin de vie a été parfois très difficile, hein. Très difficile. Il y a eu des... il y avait ces pouvoirs magiques, bon... on pourrait dire sans limite, pouvait être quand même contré. Hein. Et effectivement, on pouvait renvoyer les ondes maléfiques et frapper les personnes qui cherchaient à nuire aux autres. Voilà, c'est un peu la revanche des petites gens.
Un peu comme un boomerang, finalement.
Oui, voilà, voilà, oui, mais... tout ça, c'est, ça fait partie, disons, de notre philosophie de vie, quoi. Mais bon, la recherche de vivre mieux, d'espérer, quoi. Mais bon, moi, j'ai toujours mis un point d'interrogation dans mes livres sur ces questions-là, parce que la certitude n'appartient pas à notre esprit, quoi. L'homme reste un microbe, disons, dans l'univers, hein, comme disait Pascal. C'est-à-dire, on voudrait bien savoir, mais on doute toujours. Le doute est ce qui hante l'âme humaine.
Merci beaucoup, Pierre Louty. On va conseiller évidemment à celles et ceux qui nous ont suivis bien de se reporter ce livre dans les griffes de la sorcellerie. C'est aux éditions La Vétizou, avec une liste de quelques fontaines, notamment en Haute-Vienne, avec des photos, des clichés qui peuvent donner, pourquoi pas, prétexte à des balades dans le département d'à côté. Et vous serez, on peut l'annoncer, à la foire du livre de Brive, les 8 et 9 novembre.
Novembre, voilà. Oui. Et puis vous... Et je donne rendez-vous aux lecteurs du Périgord, à Saint-Martial d'Albarède, le jeudi 13 novembre, au Super U de cette belle région qui m'accueille tous les ans avec beaucoup de plaisir.
Eh bien écoutez, ce sera un plaisir de vous accueillir. Ce sera toute la journée ou uniquement une période?
La journée, oui.
Toute la journée entière.
De 9h30 à 17h, voilà.
Au Super U.
Nous faisons des cadeaux à tous nos lecteurs, des calendriers, des marque-pages, des stylos, voilà. Parce que vraiment, il y a une fidélité de la Dordogne, de la Haute-Vienne, de la Corrèze à nos éditions depuis maintenant plus de 40 ans.
Voilà.
Donc, j'en suis un peu ému même, et je leur dis un grand merci.
Voilà, les éditions de la Vétizou, vous publiez de nombreux romans, mais on peut tous les retrouver évidemment sur votre site internet des éditions de la Vétizou, sur les réseaux sociaux également, ou dans les bonnes librairies, il suffit tout simplement de le commander auprès de son libraire. Merci beaucoup Pierre Louty pour ces quelques minutes que vous nous avez accordées sur Liberté
FM.
C'est
moi, voilà. Bonne journée et à très vite.